Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié dans sa forme courante chez Fayard et le livre de poche. Histoire d'Angleterre d'André Mauroy est une vaste synthèse historique destinée à rendre intelligible la formation de l'Angleterre moderne. L'ouvrage suit une très longue durée, des premiers peuplements de l'île jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et à la victoire de 1945. Il ne s'agit ni d'un manuel universitaire spécialisé ni d'une simple chronologie Mauroy, écrivain autant qu'historien, privilégie un récit dense qui relie institutions, conflits, intérêts économiques et habitudes politiques. Son propos central consiste à montrer comment un territoire insulaire, longtemps vulnérable face aux puissances continentales, a élaboré des formes de gouvernement, de liberté politique et de puissance maritime particulière, les conquêtes romaines et normandes, les rapports avec l'Europe. Le développement parlementaire, l'industrialisation et l'Empire y apparaissent comme des étapes liées plutôt que comme des épisodes isolés. Cette perspective explique l'attrait durable du livre comme porte d'entrée littéraire et structurée dans l'histoire anglaise. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'insularité, une protection relative qui organise la stratégie anglaise, Mauroy fait de la situation insulaire de l'Angleterre un principe explicatif majeur, sans la réduire à une garantie automatique de sécurité. La mer protège le pays de certaines invasions et favorise l'essor de la flotte. Elle ne supprime pourtant ni la dépendance commerciale, ni la crainte qu'une puissance dominante s'installe sur le continent. Cette tension éclaire la politique extérieure anglaise telle que le livre la présente. L'Angleterre n'a pas intérêt à contrôler durablement l'Europe continentale, elle cherche surtout à empêcher qu'un seul État y concentre assez de force pour menacer ses échanges, ses côtes ou son autonomie. D'où l'importance accordée à l'équilibre des forces, c'est-à-dire au soutien variable d'alliés continentaux plutôt qu'à une soumission constante à l'une des grandes puissances. Cette lecture donne une cohérence à des choix diplomatiques qui pourraient autrement sembler opportunistes. Elle rappelle également que la puissance navale est une ressource politique et économique, non un simple symbole national. Chez Mauroy, l'insularité ne produit donc pas l'isolement, elle impose une relation sélective, vigilante et souvent financière avec l'Europe. Le cadre géographique devient ainsi une clé pour comprendre la permanence des préoccupations anglaises, de la défense de l'île à la sauvegarde des routes maritimes. Deuxièmement, conquête, héritage et composition progressive d'une identité politique. L'ouvrage insiste sur le fait que l'Angleterre ne naît pas d'une continuité ethnique ou institutionnelle simple. Ses premiers peuplements, l'empreinte romaine, l'installation des anglo-saxons, la christianisation et la conquête normande forment des couches successives. Mauroy met particulièrement en valeur la capacité anglaise à recevoir des influences venues d'Europe tout en les transformant dans un cadre insulaire. Le monde latin marque profondément le pays par Rome, l'Église et les Normands. Cependant, ces apports ne dissolvent pas les pratiques locales ni les équilibres propres à l'île. Cette approche évite de présenter l'histoire anglaise comme une exception surgie hors du continent. L'Angleterre est au contraire profondément européenne. Mais ses échanges avec l'Europe prennent des formes discontinues, souvent déterminées par les conquêtes et les rivalités. La conquête normande illustre ce mécanisme, elle renforce le pouvoir et relie l'élite anglaise à des possessions continentales, tout en préparant des tensions qui contribuent à définir un royaume distinct. L'intérêt de cette longue perspective est de montrer que les institutions et les représentations nationales sont des constructions historiques. Mauroy relie ainsi les origines de l'État, les conflits dynastiques et la culture politique à des héritages superposés plutôt qu'à une prétendue essence anglaise immuable. Troisièmement, liberté, consentement et vie locale dans la formation du gouvernement anglais. Un des fils directeurs de l'histoire d'Angleterre est la limitation pratique du pouvoir central. Mauroy ne décrit pas cette évolution comme l'application précoce d'un modèle démocratique achevé. Il souligne plutôt les contraintes qui pèsent sur les souverains pour lever des ressources, conduire une guerre ou administrer le royaume. Ils doivent composer avec les grands intérêts du pays. Cette nécessité de consentement contribue à donner du poids aux élites, aux assemblées et progressivement aux procédures parlementaires. Le livre accorde aussi une place révélatrice à la vitalité locale, le goût des comités et de la délibération concrète y est présenté comme une habitude sociale durable. Cette observation ne signifie pas que la société anglaise ait été égalitaire. Elle permet de comprendre comment des formes de coopération, d'administration et de débat public peuvent limiter l'arbitraire sans supprimer les hiérarchies. Mauroy rapproche ainsi l'histoire des libertés anglaises d'un apprentissage institutionnel, fait de compromis, de résistance et de précédents. La peur de l'asservissement, qu'il s'agisse de l'autorité royale, religieuse ou continentale, devient un ressort récurrent. L'originalité de cette interprétation tient à son refus de séparer les principes politiques des réalités matérielles. L'autonomie se maintient aussi parce que gouverner exige argent, alliance et acceptation sociale. Quatrièmement, commerce, capitalisme et empire, les forces ambivalentes de la puissance britannique. Mauroy associe étroitement l'histoire politique de l'Angleterre à ses intérêts commerciaux. Les choix diplomatiques et militaires ne relèvent pas seulement de rivalités dynastiques, ils concernent les marchés, les voies maritimes, les ressources fiscales et la position du pays dans un espace mondial en expansion. Cette grille aide à comprendre pourquoi la mer, la finance et les réseaux d'échange occupent une place si importante dans le récit. L'essor du capitalisme apparaît toutefois sous un jour ambivalent. Il explique une part considérable de la richesse et de la puissance anglaise, mais il provoque aussi de graves déséquilibres sociaux. Mauroy ne traite donc pas la prospérité comme un bénéfice uniformément partagé. L'industrialisation et les transformations économiques peuvent réduire une partie de la population à la misère et fragiliser la communauté politique. L'Empire intervient alors comme un facteur de puissance et de débouché, mais aussi comme l'un des éléments du contexte qui atténue les tensions internes sans les faire disparaître par miracle. Cette analyse empêche de confondre réussite impériale et harmonie sociale. Elle invite à lire la domination mondiale britannique comme le produit d'institutions financières, de capacités navales et d'intérêts commerciaux, tout en gardant à l'esprit son coût humain et ses contradictions. Le livre fournit ainsi une synthèse utile entre histoire économique, sociale et géopolitique. En dernier lieu, la Seconde Guerre mondiale comme mise à l'épreuve des réflexes historiques anglais, le récit de Mauroy s'achève sur la victoire de 1945, qui donne une force particulière à son interprétation de la longue durée. La Seconde Guerre mondiale représente, dans son cadre d'analyse, la réalisation d'une menace ancienne. L'Angleterre se retrouve confrontée à une puissance continentale capable de dominer une grande partie de l'Europe. Les sécurités traditionnelles paraissent alors moins assurées. La flotte ne suffit plus à elle seule à garantir l'invulnérabilité, et le pays doit soutenir un effort militaire, industriel et diplomatique d'une ampleur exceptionnelle. Cette conclusion ne sert pas uniquement à célébrer une résistance nationale. Elle récapitule les thèmes élaborés tout au long du livre: la dépendance de l'île à l'équilibre européen, le rôle de la puissance maritime, la valeur politique accordée à l'indépendance et la capacité d'une société à mobiliser ses institutions dans une crise. En terminant en 1945, Mauroy écrit aussi depuis un horizon historique précis, celui d'une Angleterre victorieuse mais transformée, dont la puissance impériale et mondiale ne peut plus être pensée exactement comme auparavant. Pour le lecteur, cette borne chronologique est importante. Elle offre une interprétation cohérente de l'Angleterre jusqu'à l'après-guerre immédiat, mais elle ne remplace pas une étude des mutations postérieures, telles que la décolonisation, l'intégration européenne ou leur remise en cause. En conclusion, Histoire d'Angleterre convient d'abord aux lecteurs qui veulent acquérir une vision d'ensemble avant d'aborder des études spécialisées sur les Tudors, la Révolution anglaise, l'industrialisation, l'Empire ou les guerres mondiales. Elle sera également utile à ceux qui cherchent à comprendre les principaux ressorts historiques de la culture politique anglaise, la méfiance envers la concentration du pouvoir, le poids du consentement, le rapport singulier à l'Europe et l'importance des intérêts maritimes et commerciaux. Le bénéfice intellectuel du livre tient à sa capacité de relier ces dimensions dans une même narration. Au lieu d'aligner règne, batailles et dates, Mauroy propose une interprétation lisible des continuités qui structurent la trajectoire anglaise. L'ouvrage se distingue des synthèses plus récentes ou plus universitaires par sa double ambition littéraire et explicative. Son style de grand écrivain vise la concision et la clarté, ce qui rend un sujet très étendu accessible sans se limiter à une vulgarisation sommaire. En contrepartie, son cadre d'interprétation et son point d'arrêt en 1945 doivent être situés historiquement, il ne couvre pas les développements les plus récents et gagne à être complété sur ces périodes. Cette limite n'annule pas sa valeur. Elle précise son meilleur usage, une porte d'entrée ample, fortement structurée et stylistiquement marquante, qui permet de dégager les grandes questions de l'histoire anglaise avant d'en examiner les débats, les nuances et les prolongements contemporains dans des ouvrages plus ciblés. Si vous souhaitez soutenir André Mauroy, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.